VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Content d'être avec vous pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité en ce mercredi 3 janvier 2018. C'est le monde aujourd'hui. Jacques Aristide en votre compagnie. Les titres que nous allons développer. Les autorités congolaises félicitent les forces de sécurité après les marches anti-Kabila, mais l'Union européenne dénonce le recours à la violence et le blocage de médias par Kinshasa. La Guinée équatoriale a dit avoir déjoué un coup d'État. Le gouvernement israélien lance un programme d'expulsion de dizaines de milliers de migrants. Les deux Corées remettent en service un téléphone rouge transfrontalier après l'offre de dialogue de Séoul. Mais Washington écarte la perspective d'un dialogue intercoréen. Dans la partie magazine, nous irons à la rencontre du rappeur blanc du Cameroun, Alex Ducamer.
Et moi, je suis un Camerounais d'origine française. Je me sens très bien ici.
Et voilà, ce sera pour tout à l'heure. À venir également vos rubriques habituelles, la Minute Éco et le billet sportif. Kinshasa se félicite de la rigueur et de la fermeté des forces de sécurité lors des marches anti-Kabila de dimanche. Le porte-parole du gouvernement congolais s'en est pris à l'archevêque de Kinshasa et a dénoncé la violence des propos du prélat tenu la veille. Le point avec Eddy Sango.
Les forces de l'ordre et de sécurité ont, selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, respecté les mots d'ordre de rigueur, de fermeté et de conformité au droit international humanitaire dans la gestion des marches du 31 décembre 2017. Lambert Mende qualifie des déclarations politiques d'une rare violence les propos que l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Mosengo, a tenu la veille sur les violences des forces de l'ordre lors des dites marches. Usant du terme barbarie pour la répression de la marche pacifique, Monseigneur Mosengo à la veille a déclaré qu'il était temps que la vérité l'emporte sur les mensonges systémiques que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RDC. Le bilan de la marche est au centre d'une polémique. La police qui affirmait jusque-là qu'il n'y avait pas de morts a admis aujourd'hui qu'il y en a eu au moins 5, mais tous des enfants de rue et des membres de la milice Kamuinantsapu accusés dans les violences au Kasaï. L'ONU aussi donne le même bilan d'au moins 5 morts, mais les organisateurs parlent des 12. L'ONU et l'Union européenne dénoncent les violences des droits de l'homme. La Fédération internationale des chrétiens pour l'abolition de la torture exige une enquête.
Au Burkina, le colonel Auguste Denis Barry, arrêté pour tentative de déstabilisation, a été déposé ce mercredi à la maison d'arrêt et de correction des armées à Ouagadougou. Interpellé vendredi dernier par la gendarmerie, le colonel Auguste Denis Barry est visé par une enquête pour tentative de déstabilisation d'après la presse locale. Il est soupçonné de fomenter une opération de déstabilisation du régime du président Kabore, réputé proche de l'ancien premier ministre de la transition Yakuba Isaac Zida en exil au Canada. Auguste Denis Barry dirigeait jusqu'ici le centre d'études stratégiques en défense et sécurité. Le procès pour détournement de fonds publics du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de 7 de ses collaborateurs a de nouveau été reporté au 23 janvier à la demande de la défense. Il avait été une première fois renvoyé à son ouverture le 14 décembre dernier. Le procès de cette personnalité phare de la vie politique sénégalaise, opposant président Macky Sall, est très attendu à un an de la présidentielle. La Guinée équatoriale affirme avoir déjoué un coup d'État préparé fin décembre par un groupe de mercenaires étrangers pour le compte de partis de l'opposition radicale. Une accusation immédiatement dénoncée comme un montage par le principal parti d'opposition. D'après le ministère de la Sécurité, il s'agirait de mercenaires tchadiens, soudanais et centrafricains qui auraient infiltré certaines localités pour attaquer le chef de l'État pendant les fêtes de fin d'année. Un nouvel attentat suicide ciblant une mosquée a frappé le nord-est du Nigeria ce mercredi. Bilan 14 morts. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon un travailleur humanitaire et deux membres des forces de sécurité, l'attaque a eu lieu dans la ville de Gamboru dans l'état de Borno. L'attentat s'est produit pendant la prière de l'aube selon des témoins. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais porte la marque de Boko Haram, qui a souvent recours aux attentats suicides perpétrés par des femmes ou des enfants. Un membre d'un groupe d'autodéfense interrogé par l'AFP a indiqué que seul le muezzin a survécu à l'attentat et que plusieurs corps étaient encore sous les débris, laissant penser que le bilan pourrait s'alourdir. En 2014, le groupe Boko Haram s'était emparé de la ville de Gamboru, un hub commercial près de la frontière avec le Cameroun. La ville avait été reprise un an plus tard par les troupes nigérianes avec l'aide des forces tchadiennes. Hier, Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, est réapparu dans une nouvelle vidéo dans laquelle il a revendiqué les récentes attaques ayant secoué le nord-est du Nigeria. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 20 000 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009 et plus de 2 500 000 ont été déplacés par le conflit.
Israël demande aux migrants africains de quitter le pays au risque d'aller en prison. C'est un programme qui a été dévoilé aujourd'hui par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les détails avec Raissa Gironda.
Le programme qui a été félicité par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aujourd'hui ne laisse que deux choix aux migrants. Accepter la déportation volontaire ou la prison. Un ultimatum qui vise près de 40 000 migrants en situation irrégulière, principalement venus d'Érythrée et du Soudan. Ces derniers, s'ils acceptent de partir avant le mois de mars, se voient offrir un billet d'avion et près de 3 000 euros. Après cette date, il sera encore possible pour ces migrants de quitter volontairement Israël, mais une somme inférieure leur sera remise. Fin mars, ceux qui refuseront seront emprisonnés, a prévenu le ministère de l'Intérieur. Les migrants qui ne peuvent pas retourner dans leur pays respectif pour des raisons sécuritaires peuvent être déportés vers le Rwanda ou même l'Ouganda. Alors que les officiels israéliens parlent de retour volontaire, l'ONU déplore le manque de transparence de la politique migratoire israélienne et sa mise en œuvre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le cahier international, la Corée du Nord annonce vouloir rouvrir le canal de communication intercoréen au lendemain de la proposition de dialogue à haut niveau de Séoul. Les précisions avec Dili Diko.
Les deux Corées ont remis en service aujourd'hui un téléphone rouge transfrontalier fermé depuis 2016. Selon un responsable, la conversation téléphonique a duré 20 minutes. Les deux pays ont donc décidé de continuer à jouer l'ouverture malgré les railleries du président Donald Trump. Cette remise en service survient après l'offre de dialogue de Séoul, répondant à une main tendue du dirigeant nord-coréen qui a évoqué une participation aux JO d'hiver en Corée du Sud. Kim Jong-un s'était servi lundi de son adresse du Nouvel An à la nation pour faire ce geste rarissime en direction du Sud dans un contexte de tensions croissantes. Le dirigeant nord-coréen avait également profité de ce discours pour répéter que son pays est un état nucléaire à part entière, en avertissant qu'il avait en permanence à sa portée le bouton atomique. Une déclaration qui a suscité une réaction moqueuse de la part de Donald Trump, qui affirmait dans un tweet « Le leader nord-coréen Kim Jong-un vient d'affirmer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne. »
En Iran, l'armée d'élite du pouvoir a proclamé aujourd'hui la fin du mouvement de contestation qui a fait 21 morts et entraîné des centaines d'arrestations depuis une semaine. Le chef des gardiens de la révolution, le général Mohammad Ali Jafari, affirme qu'un grand nombre de ce qu'il appelle fauteurs de troubles ont été arrêtés et qu'il y aura une action ferme contre eux. Le général Jafari a également fait valoir que des milliers de personnes avaient été entraînées par les États-Unis pour fomenter des troubles en Iran. Un projet de loi prônant la peine de mort pour les terroristes a été adopté en lecture préliminaire au Parlement israélien à une courte majorité, soutenue par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ce projet de loi stipule que les tribunaux militaires pourront décréter à la majorité simple la peine de mort pour les crimes terroristes. Le Congrès américain ouvre sa session 2018 ce mercredi avec un programme chargé. Le président Donald Trump doit arriver avec la majorité républicaine et l'opposition démocrate à un compromis sur le budget et l'immigration dans les deux semaines. Première urgence, financer l'État fédéral pour éviter une paralysie des administrations. Les parlementaires ont déjà reporté trois fois depuis septembre la date butoir, maintenant fixée au 19 janvier. Ils devront avant cette date adopté une gigantesque loi de centaines de milliards de dollars couvrant tout le gouvernement, de la défense à la santé, afin de terminer l'année budgétaire 2018, soit jusqu'à fin septembre. La minorité démocrate peut tout bloquer au Sénat où une majorité qualifiée des 3/5, soit 60 voix sur 100, sera requise. Joshua Boyle, ex-otage canadien en Afghanistan, a comparu brièvement ce mercredi par vidéo et une autre audience a été fixée au 8 janvier, soit 15 chefs d'inculpation, dont agression sexuelle et séquestration. Boyle, sa femme et leurs 3 enfants nés en captivité ont été libérés mi-octobre à la suite d'une opération de l'armée pakistanaise sur la base de renseignements américains. La police a déposé les accusations contre l'ex-otage pour des faits survenus entre le 14 octobre, soit le jour de son retour sur le sol canadien, et le 30 décembre. Et voilà donc pour le journal. Les nouvelles économiques en Afrique, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
Émission de titres publics sur le marché financier de l'UOMOA, c'est la Côte d'Ivoire qui cette année encore arrive en tête avec des prévisions d'émission d'un montant global de 861 milliards de francs CFA. Suivi par le Burkina Faso avec 580 milliards et le Mali 547 milliards de francs CFA. Selon l'agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics dans l'UOMOA, agence UOMOA Titres, le volume annuel global provisoire des émissions de titres publics par adjudication au titre de l'année 2018 s'élève à 3 026 milliards de francs CFA. Le Big Data ou la nouvelle ressource naturelle du 21e siècle. Les masses d'informations très volumineuses collectées aujourd'hui par les smartphones, ordinateurs, tablettes et autres interfaces en tout genre nous font entrer dans le domaine du Big Data. Comme l'explique Solomon Nassifa, directeur de la recherche d'IBM en Afrique, les données doivent être exploitées pour trouver leur valeur véritable selon des estimations de l'International Data Corporation. Aujourd'hui, ces données massives représentent une activité en pleine croissance. Elles ont généré un chiffre d'affaires de 150,8 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2017. Au Cameroun, les recettes budgétaires à la fin septembre 2017 s'élèvent à 2 825,8 milliards de francs CFA sur un objectif initial de 3 119,4 milliards. Des recettes budgétaires en hausse de 278,1 milliards de francs CFA, soit plus 10,9% en glissement annuel.
Il est l'heure maintenant de passer à l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
J-1 avant la remise du Ballon d'Or africain.
Eh oui, l'Égyptien de Liverpool Mohamed Salah qui fait figure de favori devant le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le trophée du Ballon d'Or africain 2017 sera décerné demain à Accra au Ghana. Avec la sélection égyptienne, l'attaquant de 25 ans s'est hissé jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations avant de s'incliner contre le Cameroun. Surtout, Mohamed Salah a grandement contribué à la qualification de l'Égypte pour le Mondial 2018. L'Égypte absente depuis 28 ans du mondial. En club également, Mohamed Salah impressionne, 17 buts, il est le deuxième meilleur buteur de la première ligue anglaise. On rappelle que le lauréat de ce Ballon d'Or 2017 est élu par un panel de sélectionneurs et de directeurs techniques des équipes nationales africaines, des membres d'une commission de la Confédération africaine et de journalistes. D'autres trophées seront remis lors de cette cérémonie à Accra, celui du meilleur entraîneur de l'année. 3 postulants, Garnot Ror à la tête du Nigeria, Hector Cooper, le sélectionneur de l'Égypte, et le Marocain Houssine Amouta, l'entraîneur du Wydad Athletic Club de Casablanca, le WAC vainqueur de la Ligue des Champions, briguera également le titre de club de l'année face aux Égyptiens d'Al Ahly et les Congolais du tout-puissant Mazembe.
Cédric Bakambu pourrait s'engager avec un club chinois.
Le joueur congolais en forme de Villarreal cette saison est sur le point de quitter le club espagnol pour un transfert imminent vers le Beijing Guoan en Chine. Si ce transfert se concrétise, Bakambu, 26 ans, deviendrait la vente la plus élevée de l'histoire de Villarreal devant le défenseur ivoirien Eric Bailly qui avait été vendu 38 millions d'euros à Manchester United en 2016.
Et enfin Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, le double All-Star Isaiah Thomas a réussi ses grands débuts avec Cleveland en marquant 17 points lors de la victoire 127 à 110 des Cavaliers contre Portland. San Antonio et les Spurs l'emportent 100 à 91 contre les Knicks de New York. Ce succès fait de Greg Popovich le 5e coach le plus victorieux victorieux de l'histoire de la NBA.
Merci bien Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous émettons de la capitale américaine, Washington DC. Jacques Aristide avec vous. Il est l'heure maintenant d'aborder la tranche magazine. Et le premier ministre éthiopien, Haile Mariam Desalegn, promet de libérer les prisonniers politiques et de fermer le centre d'interrogatoire de Makelawi pour le transformer en musée. Il n'a pas précisé le nombre de personnes concernées. L'Éthiopie connaît une crise politique qui a vu certains hauts fonctionnaires démissionner du parti au pouvoir après la récente répression des manifestations et des conflits ethniques meurtriers sur fond de revendications sécessionnistes. Près de 700 personnes sont mortes lors des troubles en 2015 et 2016, d'après une enquête mandatée par le Parlement. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint à Paris l'expert en questions africaines, Roland Marchal.
C'est une décision d'ouverture qu'on attendait depuis très longtemps. Je ne crois pas qu'elle suffira, mais enfin, c'est un premier geste. Elle traduit, je crois, l'intensité du débat au sein des couches dirigeantes éthiopiennes et le fait que le type de gestion qu'ils ont eu de la sphère politique depuis des années est aujourd'hui remis en cause de façon importante par les mouvements sociaux. Cette remise en cause est en fait autant basée sur l'existence de tensions sociales très forte qu'une véritable crise à l'intérieur de l'alliance qui a gouverné le pays depuis 1991.
Et comment explique-t-on finalement aussi cette annonce que le Premier ministre a fait concernant le centre d'interrogatoire de Makelawi, disant qu'il le serait fermé et transformé en musée?
Je crois que le gouvernement essaye de donner des gages d'une ouverture. Bon, ils vont sans doute aller un peu plus loin. Le problème qui est posé, c'est comment est-ce qu'un régime peut continuer à gérer le pays d'une façon aussi verticaliste et aussi autoritaire, alors même que les principaux partis de la coalition sont extrêmement divisés sur leur importance respective, les uns par rapport aux autres, et également sur le modèle de développement qui doit être suivi. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit poursuivre ce modèle, entre guillemets, à la chinoise, c'est-à-dire d'État développementaliste? Est-ce qu'au contraire, il faut redonner beaucoup plus de sens aux demandes sociales de la population, et c'est-à-dire répartir autrement les fruits de la croissance? Et derrière ça, vous avez des remises en causes qui sont plus radicales, qui sont proprement politiques. Est-ce que les Tigréens, en tous les cas ceux qui sont partie prenante du Front Populaire de Libération de Tigray, qui ont de fait géré l'essentiel de l'appareil sécuritaire et de l'appareil politique, est-ce que ce monopole doit être remis en cause et quels seront les nouveaux partages du pouvoir qui vont avoir lieu à l'intérieur de la coalition et qui permettront de redonner une certaine crédibilité à ces partis politiques et à partir de là, disons, de trouver des compromis.
Roland Marchal, chargé de recherche sur les questions africaines au CNRS. Au Libéria, le président élu George Weah a fixé ses objectifs pour son mandat de 6 ans. Il promet de rendre le pays autonome sur le plan agricole et de rénover les infrastructures. L'ex-footballeur international a également invité les Libériens expatriés à revenir au pays. Yacouba Ouédargo a joint le journaliste Mohamed Kenneth, anciennement à la radio nationale du Libéria, ILBC.
Monsieur Weah n'est pas un homme politique. Il s'est lancé dans la politique parce que, comme il est très populaire, la jeunesse, les autres populations rurales ont demandé de rentrer en politique. Donc, dans son premier discours face à la presse, il a souligné 3 choses qui sont très, très importantes. La lutte contre la corruption, l'emploi des jeunes et surtout, il a invité les libéraux de l'extérieur à retourner au Libéria.
Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas un politique, mais il dit vouloir s'entourer d'experts et de conseillers de premier rang et il invite également, comme vous le dites, disiez tantôt, les Libériens expatriés à revenir au pays. Pensez-vous que cet appel-là soit entendu?
Bien sûr. Pendant notre guerre civile ici, la plupart des intellectuels et technocrates libériens se sont exilés soit aux États-Unis, soit en Europe, soit en Asie. Il y en a qui sont revenus, mais la plupart sont restés à l'extérieur. C'est entendu, ils vont revenir.
Monsieur Ouéa diffère de la réforme agricole, l'un de ses principaux axes de développement. Peut-il y arriver?
Ça dépendra du soutien que la communauté internationale va apporter dans le domaine de l'agriculture. Vous savez que nous sommes un pays qui est en train de se relever la tête. L'agriculture, c'est un secteur clé. Et M. Ouéa a déjà, à travers l'équipe de transition qui a été mise sur place, ils ont déjà entamé des contacts pour voir s'il y aura une aide vraiment technique pour essayer d'améliorer l'agriculture sauvage.
Jusque-là, on reste dans les déclarations d'intention. Georges Ouéa promet aussi de s'attacher à améliorer les infrastructures. C'est un passage obligé pour se développer.
Oui, bien sûr. On n'a même pas encore 1000 km de route bitumée au Libéria jusqu'à présent. M. Ouéa sera investi officiellement le 22 janvier et après il va nommer son gouvernement et après on verra.
D'aucuns parlent d'objectifs relativement modestes pour son mandat de 6 ans. Tout est-il à faire ou à refaire au Libéria?
C'est les deux à la fois. Tout est à faire et tout est à refaire parce qu'il y a certains domaines. Le secteur minier par exemple. Le secteur minier s'était relevé mais avec la crise de Ebola, c'est complètement été mis à l'eau, le secteur minier. Donc, le secteur agricole, l'élevage, l'infrastructure, vraiment, il faut tout refaire.
Selon vous, à quel chantier faut-il s'attaquer dès maintenant?
La première des choses, il faut attaquer l'infrastructure. Le Libéria n'est pas un très grand pays, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest, mais de Monrovia pour aller à l'intérieur du pays, franchement, c'est difficile.
On écoutait le journaliste libérien Mohamed Kenneth, il était en ligne de Monrovia.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi 4 janvier. George Weah, élu nouveau président du Libéria. Une nouvelle ère en perspective pour ce pays de près de 5 millions d'habitants. Dans son premier discours post-victoire, l'ancien footballeur dit vouloir améliorer la vie des Libériens et mettre fin à la corruption gouvernementale. Il a aussi appelé les investisseurs étrangers à venir bâtir le pays à ses côtés. L'ancien Ballon d'Or est-il à la hauteur des défis qui se présentent devant lui? Comment va-t-il pouvoir tenir ses promesses de campagne? Et fera-t-il mieux que la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h en temps universel.
Allez, une petite note musicale pour terminer. Eh bien, au Cameroun, un rappeur français se fraye une place dans le paysage musical du pays. Il s'appelle Alex Ducamer et chante dans un argot camerounais. Forçant ainsi l'admiration du public, Alex Ducamer a imposé son style musical et même son accoutrement depuis 2014, année de son premier titre. Son portrait avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julenta.
Nyangalement, c'est l'un des titres à succès du jeune rappeur français Alex Ducamer, le cinquième des 6 titres de sa carrière musicale. Nyangalement fait référence au Camerounais inconditionnel de l'amour. Le phénomène est décrit dans l'argot camerounais baptisé francam anglais, un mélange du français et d'anglais non conventionnel, usuel en milieu jeune, une source d'inspiration pour Alex Ducamer.
Wanda, Jogo, voilà, on mélange, je waka. Pour dire je marche, comme Johnny Walker qui marche sur la bouteille de whisky. Donc moi j'ai eu un coup de foudre en fait pour cette langue très imagée, très inventive, le cam franglais. Donc je chante depuis mes débuts en cam franglais.
Le titre sorti en 2016 se danse toujours. Alex Ducamer n'en fait pas moins bien. Comme ce jour, sur le stade d'un quartier populaire de Yaoundé, il est l'invité spécial d'une structure spécialisée dans la mode, la communication et le tourisme.
Le volet tourisme, en fait, c'est ça qui a motivé notre choix d'Alex Ducamer. Parce que le fait qu'il soit blanc et qu'il chante des rimes camerounais et avec des rimes qu'on retrouve localement, surtout dans l'environnement des jeunes.
C'est en 2007 qu'Alex, un Lyonnais, a découvert le Cameroun lors d'une visite familiale. C'était le point de départ du coup de cœur pour le Cameroun.
Et moi, je suis un Camerounais d'origine française. Ouais, on voit beaucoup de Français d'origine camerounaise. Moi, je fais dans l'autre sens et je me sens très bien ici.
Congo ça, hashtag Congo ça, massa Congo ça.
Kongosa, le nouveau single d'Alex du Cameroun ne déroge pas aux réalités du Cameroun. Kongosa, c'est le monde des ragots et colportage au Cameroun. Cette intrusion en chanson d'Alex du Cameroun dans le vécu des Camerounais fascine ses jeunes admirateurs.
Pour quelqu'un qui n'est pas du pays, il s'est plutôt facilement attaché au langage africain, camerounais, particulièrement l'afro. Donc, je pense que c'est quand même assez bien.
Le rappeur blanc, comme l'appellent certains, est un artiste de contact et accepté déjà par ses pairs du Cameroun.
J'ai fait un featuring il y a quelques mois avec Sadrak, qui est une des grandes plumes du hip-hop au Cameroun. Je suis à Douala, je prends beaucoup la moto, je fais des rencontres, des super rencontres, quoi. J'étais il y a deux jours là sur la moto avec le Ben Sikiner, on s'est mis à chanter, j'ai fait découvrir mes chansons.
Au Cameroun, Alex du Cameroun n'a pas d'autres activités que travailler pour l'avancement de ses projets de musique. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a décidé de briser la distance entre la France et le Cameroun en mai 2017.
Alex du Cameroun a finalement pris la décision de résider au Cameroun après 6 titres. C'est à Douala, la capitale économique du Cameroun, où il multiplie des spectacles en public au milieu des gens du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Pour les milliers de migrants et des réfugiés fuyant la violence et la pauvreté dans plusieurs pays africains vers l'Europe, en quête d'opportunité d'une vie meilleure, le chemin le plus emprunté passe par la Libye. Ils constituent des cibles pour les individus et les groupes criminels. Leur brutalité ne connaît pas de limites. Exploitation sexuelle, travaux forcés, extraction d'organes et esclavage constituent les outils de leur activité, a dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La crise des migrants en Libye a une fois de plus attiré l'attention de la communauté internationale suite au récent reportage de la chaîne CNN sur des migrants africains vendus en esclavage dans ce pays. Les victimes seraient cédées pour des sommes aussi dérisoires que 200 dollars. Les migrants qui recourent aux services de passeurs sont extrêmement vulnérables au trafic d'êtres humains et à d'autres crimes dans la mesure où leur présence dans le pays est illégale et ils doivent souvent des fortes sommes aux passeurs. Certaines de ces personnes peuvent être soumises au trafic sexuel ou au travail forcé en route vers leur destination. Le gouvernement libyen d'entente nationale a lancé une enquête suite aux allégations de trafic d'êtres humains et s'est engagé à traduire les responsables en justice. Les États-Unis appuient fermement ces efforts et le gouvernement d'entente nationale est, pour nous, un partenaire vital dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Les États-Unis continuent de soutenir le programme d'assistance humanitaire aux réfugiés, aux migrants, ainsi qu'aux personnes détenues en Libye. Ils concentrent leurs efforts dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, les 3P, poursuite, protection et prévention. Nous finançons la recherche sur les liens entre les conflits et la vulnérabilité au trafic d'êtres humains pour nous aider à comprendre comment mieux prévenir ce crime. Nous espérons protéger les victimes en les identifiant immédiatement dans les situations des conflits et en les assistant. Et nous tenons les passeurs responsables en les jugeant. Nous croyons qu'une approche centrée sur les victimes en matière d'enquête et de poursuites judiciaires est essentielle aux efforts d'application de la loi. Ceci inclut les engagements de ces pays à ne pas traduire en justice les victimes des trafics d'êtres humains pour des actes posés alors qu'elles étaient soumises au trafic, a déclaré la représentatrice permanente des Nations Unies, Nikki Haley. Nous continuerons d'œuvrer avec le Conseil de sécurité de l'ONU et le gouvernement partenaire pour mettre un terme à cet assaut barbare contre la dignité humaine.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde. À la technique Chang, c'était Jacques Aristide au micro. Nous vous remercions pour votre fidélité. Ainsi va le Monde aujourd'hui. Nous restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À la prochaine. Take care.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.